BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Avec aujourd'hui, vous allez voir une émission consacrée à l'eau et aux océans. Nous serons d'abord à Rouen, chez Lavomatique, qui, comme son nom l'indique, est une entreprise de laverie et de pressing. Vous allez voir que les enjeux autour de l'eau, de l'énergie et de la bascule de la filière textile dans son ensemble sont considérables. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre experte sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons des océans dans la deuxième partie de l'émission avec l'UNOC qui ouvre ses portes lundi prochain. En quoi est-ce un enjeu pour les entreprises? En quoi la préservation des océans est-elle stratégique pour la pérennité des modèles d'affaires? On en parlera avec Cédric Batteur du groupe Gilbert dans la pharmacie et la cosmétique et Florent Favier de la Convention des entreprises pour le climat. BFM Climat, on y va! Et on part donc à Rouen, chez Lavomatique, pour commencer cette émission. L'entreprise gère une dizaine de laveries et de pressing. Et pour faire sa bascule, il va falloir prendre des décisions sur l'eau, sur l'énergie et embarquer la filière textile dans un nouveau modèle. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Lavomatique.
Allez, aujourd'hui, on vous emmène à Rouen, chez Lavomatique. Lavomatique, c'est des laveries, mais engagées, vous allez le voir, en énergie, en eau, en textile. Cette PME normande veut laver plus propre, plus sobre et surtout plus loin. Alors, on découvre tout de suite leurs défis.
On a rénové cette laverie-là il y a 2 ans, en se posant la question de comment on consomme... c'est comment on consomme la juste dose pour prendre soin. Tant pour prendre soin des vêtements que pour prendre soin de cette fabuleuse chance qu'on a d'accéder aux énergies de manière illimitée. Et donc se dire comment on lave bien avec les justes paramètres et les justes doses. Donc on s'est posé la question d'investir dans du matériel qui estime le poids du linge et qui adapte du coup la quantité d'eau potable utilisée et donc la quantité d'énergie utilisée pour chauffer cette eau. On a aussi choisi d'investir dans des séchoirs plus isolés. Avec cette grande discussion toujours de se dire, sans faire du tout blanc ou du tout noir, mais donc justement la juste proposition à l'instant T, de on est au gaz, le gaz produit énormément de carbone, donc l'idée première avait été de dire on retire le gaz, sauf que ça a un impact important sur le temps de cycle en fait de séchage des vêtements. Donc du coup on a essayé de trouver un juste milieu, c'est-à-dire on est resté au gaz, mais on a été chercher des séchoirs qui sont plus isolés, de nouvelle génération, plus isolés de manière à ce qu'ils consomment moins de gaz et que la calorie reste bien au centre du tambour et non plus serve à chauffer l'espace parce qu'elle se disperse. Voilà, on a essayé de faire un juste milieu entre tous les sujets économiques, écologiques et sociaux.
Bonjour Laure Maratio.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis dans votre laverie à Rouen. Vous êtes la directrice de l'entreprise Lavomatique et vous êtes aujourd'hui avec nous en plateau pour qu'on vous aide à avancer. Et c'est Isabelle Albertelli à vos côtés qui va s'en charger. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Directrice climat de BPI France. Alors on l'a entendu, Laure a déjà beaucoup réfléchi à cette question de l'énergie. On part pas de rien. Comment est-ce que vous pouvez l'aider à avancer sur cette question complexe?
Alors effectivement, c'est un des plus gros postes, j'imagine, avec l'eau des dépenses. Donc peut-être 3 idées. Une première, un peu plus directe et plus simple, qui serait de se dire comment sensibiliser le consommateur à ne pas toujours laver trop chaud. Parce qu'en fait, beaucoup de choses peuvent se laver à froid. Et donc ça fait de facto réduire la température, ouais, et donc la consommation en énergie. Donc avoir une habitude de se dire que oui, à froid, ça peut suffisamment dégraisser, suffisamment laver. Peut-être parfois passer à 20, 30 degrés. Mais des cycles beaucoup plus élevés ne sont a priori pas très nécessaire. Deuxième possibilité, ça va être ce changement de séchage. Alors, je vois qu'il y a déjà eu des investissements, donc c'est pas forcément adapté partout, mais il existe des sèches-linges qui sont faits avec des pompes à chaleur, donc en fait en version géothermie, pour éviter le gaz, et qui peuvent réduire de 65% la facture énergétique et la consommation de CO2. Et normalement, c'est censé laver plus vite, mais après, ça va aussi dépendre de la capacité de chaque séchoir qui sont déjà mis en place. Et puis, on peut pas tout de suite remplacer, c'est-à-dire que là, les machines ont l'air toutes neuves, donc on aura tendance à quand même essayer de les utiliser un peu plus.
Bien sûr.
Dernier point, se dire est-ce qu'il y a une possibilité d'autoconsommer à certains endroits. Donc là, dans le bâti, c'est pas toujours possible, mais c'est de se dire est-ce que je peux mettre des panneaux solaires, est-ce que je peux en fait moi aussi capter de l'énergie pour faire tourner mes machines avec quelque chose de renouvelable.
Ouais, des pistes intéressantes. Laure Marissiau, la géothermie, effectivement, on n'en a pas parlé dans le reportage, ça pourrait être... Vous vous êtes posé cette question-là ?
Alors, on a la difficulté d'être effectivement locataire de l'ensemble des sites des sur lesquels on se trouve aujourd'hui. Donc, c'est des pistes qu'on a en tête pour certains magasins en particulier, mais pour l'instant, on n'a pas passé le pas. Mais c'est des questions qu'on se pose effectivement. De toute façon, quand on pose énergie, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de manière globale ? Et effectivement, éventuellement pouvoir être... entre guillemets, autonome.
Ouais.
Moins
dépendant.
Dépendant, merci Thomas.
Et il y a quelque chose, je trouve, de très intéressant que vous dites à toute fin du reportage. Vous dites, il faut que je trouve un juste milieu entre écologie, économie, sociale. Ça, c'est votre vision de la transition climatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut pas être tout pour l'écologie, entre guillemets. On ne peut pas faire quelque chose de radical. Il faut trouver un équilibre pour que ça marche.
Oui. Je crois fondamentalement, j'aime pas du tout les extrêmes déjà par principe, et je crois fondamentalement qu'il faut que les choses, pour qu'elles se fassent et se mettent en action, qu'elles soient enthousiasmantes. Et en l'occurrence, effectivement, quand on est entrepreneur quelque part, on nous a quand même élevé à dire que le but de l'entreprise c'était gagner de l'argent. Aujourd'hui, pour moi, le but d'une entreprise c'est être rentable, mais être rentable au sens large du terme, être rentable évidemment économiquement, mais être rentable environnementalement parlant et socialement parlant. Et si j'arrive, nous, à notre petit niveau, à faire ce compte de résultats économique, environnemental et social, et que le tout est effectivement rentable, là, on aura gagné.
Ouais.
Et c'est hyper enthousiasmant quand on réfléchit le métier comme ça.
Bon, c'est ça le plan. On retourne sur place avec Philippine, parce qu'évidemment, l'énergie, c'est fondamental, mais on en parlait, il y a bien sûr aussi l'eau, qui est une autre ressource importante à gérer.
Le pressing, c'est une activité aussi qui est très consommatrice. Lavomatic veut donc sortir du tout eau potable, recycler, filtrer et fonctionner en circuit fermé. L'objectif, c'est de ne plus prélever une goutte de trop. Et ça, c'est leur deuxième défi.
La question, c'est est-ce qu'on doit laver avec de l'eau potable ? Est-ce qu'on peut pas avoir des systèmes qui permettent d'être en circuit fermé et d'arrêter de prélever dans la ressource eau potable en amont ? Et dans cette question de l'eau potable comme outil de transfert, c'est aussi tout ce qui sort. Donc, on prélève déjà dans cette ressource rare. Et en plus, quand on la rend au commun, on la rend chargée de micropolluants, microplastiques, microfibres, détergents, etc. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'à notre niveau, est-ce que la réponse est... Est-ce qu'on peut être en circuit fermé et on arrête de prélever ? Alors, ce ne sera pas totalement du circuit fermé, ça je le comprends, mais se passer majoritairement de prélever dans cette ressource. Et en même temps, du coup, de filtrer et donc de garder les micropolluants, les microplastiques et de plus les rendre au commun. Ou est-ce que la question, c'est ne peut-être pas être plus royaliste que le roi, mais rendre de l'eau propre et donc traiter déjà la filtration chez nous pour ce qu'on rend au commun, ce soit quelque chose de... propre, sans mauvais jeu de mots, dans notre métier.
Alors Isabelle, on voit bien que Laure se pose plein de questions. Toutes les questions. Quels sont vos conseils sur cette question de l'eau ?
Sur l'eau, donc ce sujet de la machine plus, on va dire, économe en eau, je pense que c'est déjà le cas. Quand je vois les machines, elles sont très neuves, on va dire, et cette capacité à mesurer quelle est l'utilisation la plus juste d'eau, en fait, permet déjà d'être plus efficient. Les machines nouvelles vont économiser jusqu'à 25-40% d'eau par rapport à ce qui peut être plus vieux. Ensuite, une autre possibilité, ça va être de se dire, est-ce que je pourrais la rendre moins polluée ? Donc, c'est cette idée de détergent et de plastique. Donc là-dessus, il y a deux possibilités. Sur la partie détergent, c'est utiliser des détergents plus naturels, déjà pour que en fait, derrière, ce soit moins pollué et le traitement soit plus facile. Et une autre façon aussi, c'est, ça nécessite un tout petit peu de travaux, mais à l'arrière, au niveau des conduits d'eau, arriver à mettre des récupérateurs de plastique, de microplastique, donc ça existe.
Ah ouais.
Après, la question, c'est que ça a été testé pour des machines individuelles. Est-ce qu'on peut trouver à l'échelle plus industrielle ? Parce qu'évidemment, il va falloir un récolteur de plastique beaucoup plus important. Enfin, j'ai vu passer certains tests, mais du coup, c'est pas encore à échelle industrielle, de recyclage d'eau de blanchisserie, et donc ce serait derrière arriver à avoir une station. Mais là aussi, il faut faire des travaux, et donc ça suppose de faire venir un bureau d'études d'ingénierie et d'avoir vraiment une étude en profondeur sur toute la chaîne, en plus d'avoir peut-être plus de latitude sur les locaux.
Ouais. Laure, là aussi, vous n'êtes pas chez vous, donc vous ne pouvez pas tout vous permettre, mais vous avez, comme sur l'énergie, vous avez une intuition quand même de là où vous voulez aller ?
Alors aujourd'hui, on est accompagné par l'Agence de l'eau pour faire une étude, effectivement, pour imaginer un système de traitement des eaux dans une des caves de nos laveries, sachant qu'effectivement, la technologie existe. La particularité, c'est que nous, il va falloir les descendre dans les vieilles caves de Rouen. Par exemple, comme mes confrères blanchisseurs qui, eux, peuvent maîtriser complètement les entrants, quelqu'un peut décider de mettre une pastille de Javel dans le tambour, même si j'ai décidé de mettre de la lessive injectée. Donc, il y a ces questions. Aujourd'hui, on avance. Et effectivement, je suis entre deux eaux, c'est-à-dire, est-ce que... Sans mauvais jeu de mots. Est-ce que la question, c'est traiter l'eau ou est-ce que c'est effectivement la rendre propre? Et là, on est dedans. Donc, j'ai hâte de voir la suite.
Bon, on retourne une dernière fois sur le terrain parce que vous avez un dernier défi à relever et c'est peut-être le plus ambitieux. Parce qu'il va au-delà de votre entreprise, c'est que vous voulez changer notre rapport aux vêtements. En résumé, vous voulez faire basculer la filière textile dans un nouveau modèle.
Et si laver était le point de départ d'un changement global ? Lavomatic veut embarquer la filière textile vers plus de sobriété, moins produire, mieux entretenir et surtout repenser notre rapport aux vêtements. Rien que ça.
Nous allons procéder à un nouveau modèle économique. C'est de pouvoir, déjà au niveau du lavage, de choisir un programme de lavage et non un pré-lavage, pour déjà faire des économies d'énergie, d'utilisation de l'eau aussi, qui me paraît très important. Et nous allons aussi choisir la température du textile, un peu plus faible et moins fort aussi pour notre planète. Hein. Quand on fait un lavage de draps à 90 degrés, pour moi, ça me paraît pas du tout essentiel au jour d'aujourd'hui. Donc on va encore descendre la température. Et on va aussi, vu qu'un vêtement est lavé régulièrement, nous, ça ne sert à rien qu'il soit lavé régulièrement à outrance tout le temps, quoi, en fait.
Alors, Isabelle, pour conclure, en fait, quand on écoute ce témoignage, c'est comment est-ce qu'on fait, enfin, je trouve, la manière de résumer, c'est comment est-ce qu'on fait pour redonner de la valeur aux vêtements ? C'est peut-être comme ça, en fait, qu'on va changer nos habitudes vis-à-vis des vêtements, dans l'achat, dans l'entretien. Comment est-ce qu'on redonne de la valeur à nos vêtements ?
Ça tombe très bien, puisqu'aujourd'hui passe une loi au Sénat sur le sujet de la fast fashion, donc c'est assez bien tombé. Il y a peut-être deux choses. Une partie qui va être globalement de la sensibilisation, donc là, c'était mentionné, se rendre compte qu'un vêtement n'a pas besoin d'être lavé à outrance, donc ça va dépendre des tâches, ça va dépendre du textile. Et puis, évidemment, si on arrive à acheter des textiles plus durables ou qui tiennent plus longtemps, on aura moins besoin du service. De l'autre côté, il y a une façon de se dire, ben là, ce sont des points où les gens viennent apporter du textile. Et donc, comment on leur donne une vie qui dure plus longtemps ? Ça pourrait être de proposer des stands de réparation. Ça pourrait être d'avoir quelque chose pour la retoucherie. Et puis, derrière, en fin de cycle, presque revendre. Et donc, ça rapporterait en fait un complément de rémunération. Après, c'est un business model complémentaire. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est une diversification. Ah bah. Ouais. Mais c'est vrai qu'utiliser les points, puisque tout le monde apporte son textile là, et proposer tout de suite de la retoucherie, c'est de la valeur ajoutée. Ça permet de le garder plus longtemps. Et puis, ça permet aussi, peut-être au passage, de soit le faire de façon ludique, si les gens peuvent aussi mettre la main à la pâte, à voir s'ils ont envie de s'y mettre ou pas, ou s'ils préfèrent juste le service. Ça permet de leur expliquer pourquoi on le fait et sur quel textile on peut le faire et de quelle manière même chez eux. Et puis enfin, leur dire, je peux vous le revendre. Donc là, c'est aussi une possibilité où les gens, au lieu de complètement se débarrasser, on leur explique qu'on peut faire toute la chaîne. Ouais. Dans l'idéal, ils en achèteraient moins dès le départ et ils les garderaient plus longtemps. Mais voilà, c'est un cycle où il faut être à chacune des étapes et trouver la rentabilité, c'est quand même pas si simple à chaque fois de changer de business model, puisque dans le local, il faut réaménager. Ouais. Il faut aussi les compétences. Il y a des perspectives différentes. Ouais. Mais il y a de quoi faire pendant
très intéressant
moment.
Ça. Qu'est-ce que vous en pensez en conclusion, Laure ? Cette diversification, elle vous paraît pertinente ?
Absolument. Pour moi, compléter
votre business model avec d'autres briques.
Oui. Oui. Et la question de la fin de vie. Alors, la fin de vie du vêtement, même dès le départ, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est comment nous, à notre niveau, est-ce qu'on peut apporter à nos clients cette envie de reprendre soin de leurs vêtements qui, de base, est fait pour prendre soin de nous. Ouais. Donc, c'est comment on travaille sur la santé du vêtement, le confort et au passage de la soutenabilité du vivant. Mais je partage complètement. Pour moi, on doit remonter la filière et potentiellement bosser avec des fabricants de vêtements. Et ce serait génial de pouvoir avancer avec eux parce que mieux on connaît le vêtement, mieux on peut l'entretenir.
Ouais, bien sûr.
Et puis, quand on redescend la filière, se dire effectivement... Comme je veux que les choses restent enthousiasmantes, je ne vais pas dire aux gens « vous n'avez plus le droit de changer de vêtements ». Je vais quand même leur dire que s'ils achètent des vêtements effectivement de meilleure qualité, ils dureront plus longtemps. Mais je peux comprendre qu'ils aient envie effectivement à un moment donné d'en changer. Et donc, comment nous, on peut être effectivement ce trait d'union, potentiellement faire finalement de la seconde main locale dans une ville, un village, se dire « voilà, nous, c'est local ». Et on permet aux gens finalement de se revendre les vêtements entre eux avec cette touche effectivement de couture et de faire durer en réparant.
Et avec peut-être le besoin de s'implanter proche d'autres entreprises de textiles qui vont vendre les textiles, mais tout de suite pouvoir donner cette idée au consommateur que là j'achète et juste après je peux laver et réparer au même endroit. Il y a cet enjeu de local à travailler.
Bon.
Je prends.
Eh ben, c'est passionnant. On terminera sur ces perspectives d'évolution de votre modèle d'affaires. Merci. Merci infiniment à toutes les deux. Laure Maricio de Lavomatique et Isabelle Albertelli des Pays France. À bientôt, Isabelle.
Merci.
On a parlé laverie, pressing et de la ressource en eau. Ben, on continue à parler de tout ça. On va parler de nos océans à présent. L'UNOX, c'est à partir de lundi prochain à Nice et BFM Climat sera sur place pour vous faire vivre l'événement. Mais on va planter le décor dès aujourd'hui pour comprendre en quoi la préservation des océans est aussi un sujet économique. On voit ça avec nos invités aujourd'hui. Bonjour Cédric Batteur.
Bonjour, merci
d'être
invité.
Avec nous. Ben, merci à vous d'être là aujourd'hui sur le plateau de BFM Climat. Vous êtes le directeur général du groupe Gilbert, vous êtes dans la pharmacie et la cosmétique. Et avec vous Florent Favier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes le copilote du parcours océan de la Convention des entreprises pour le climat. Évidemment, la COC, on vous connaît bien dans BFM Climat. Cédric Batteur, je commence avec vous, le chef d'entreprise. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, en quoi la préservation des océans, c'est un sujet pour vous, pour votre business, pour la pérennité de votre entreprise ?
Préservation des océans est essentielle et plus généralement le cycle de l'eau. Mais dans les océans, le cycle de l'eau est plus large. Comprenant les glaciers, les fleuves, l'eau, au sens large avec les océans. Ce qu'elle a absolument cœur par rapport à l'activité des laboratoires Gilbert. L'eau que nous utilisons pour la production de nos sérums physiologiques est essentielle. C'est de l'eau du réseau, mais nous puisons également de l'eau de mer à la pointe Bretagne pour des produits de santé dans le domaine respiratoire. L'un comme l'autre, l'eau de mer issue directement de notre littoral, comme l'eau du réseau, est absolument essentielle pour notre activité.
Oui, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'eau ou pas d'eau en bonne quantité, vous ne pouvez pas commercialiser vos produits ou en tout cas atteindre le niveau de performance que vous vendez.
On est spécialiste de l'eau de mer particulièrement, mais également des actifs marins. Il faut savoir que les propriétés cosmétologiques ou pharmacologiques des actifs marins au sens large sont immenses et aujourd'hui très peu connues. On connaît à peu près 2% des actifs qui peuvent être utilisés en santé humaine. Il s'ouvre un large champ qu'il nous faut préserver pour pouvoir en connaître les bénéfices.
Ouais, bon, on comprend tout de suite, très facilement, à quel point c'est vital pour vous. Florent Favier, même question pour vous. Alors vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous accompagnez des entreprises dans la Convention des entreprises pour le climat, vous avez lancé le parcours océan tout récemment, avec la perspective de l'UNOC. Qu'est-ce que vous observez au sein de ce parcours? Et puis surtout, est-ce que toutes les entreprises, comme celle de Cédric, ont bien compris l'enjeu vital que représentent les océans? Ou est-ce qu'il y a des gens à qui il faut expliquer et convaincre?
Alors, celles qui sont arrivées dans le parcours sont venues en général en conscience, en comprenant quel était leur lien soit avec l'océan, soit avec l'eau. Les deux sont de toute façon liés. Mais pour répondre un peu à votre question d'avant, en fait, finalement, si on ne se rend pas compte que sans océan, il n'y a pas de vie sur Terre, on comprend de toute façon l'importance de préserver, parce que sans vie sur Terre, il n'y a pas d'économie. Donc, bien sûr, l'économie est un facteur important, mais à la racine du problème, il y a quand même comment on fait pour vivre sur Terre si l'océan est dégradé, si l'océan ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner.
Non, là, ce que vous dites, effectivement, c'est absolument fondamental. Mais est-ce que toutes les entreprises veulent endosser cette responsabilité? C'est-à-dire, bon, m'occuper de mon business, ok, c'est mon devoir, mais sauver la planète, j'ai peut-être pas le temps.
Ben, il s'agit en fait de bien comprendre que son business, d'une manière ou d'une autre, est lié au cycle de l'eau ou à l'océan. Qu'on le veuille ou non, dans les déchets, dans le nettoyage qu'on peut faire de ses bâtiments, dans la façon dont on va aussi apporter de la nourriture à ses collaborateurs, à un moment donné, l'océan est là. Et en effet, les entreprises, si elles ne l'ont pas compris avant, de toute façon, assez rapidement, elles le comprennent.
Elles le comprennent assez vite. Bon, vous parlez de la ressource en eau, évidemment, enjeu majeur pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres ressources liées à l'eau, liées aux océans, qui sont vitales pour vous dans la pérennité de votre modèle d'affaires?
Qu'est-ce que vous entendez par d'autres ressources?
D'autres ressources qu'on trouve dans les océans.
Liées à l'océan?
Oui. Au-delà de la ressource en eau, la faune, la flore, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des points, d'autres ressources liées aux eaux et aux...
L'océan est infiniment complexe. Et j'ai envie de dire, je laisserai plutôt les biologistes parler à ma place. Mais comme je vous le disais, en tant qu'acteur pharmaceutique, acteur au niveau développeur de solutions de santé humaine, la mer soigne. La mer recèle énormément d'actifs, de propriétés qui peuvent être bénéfiques pour la santé humaine. Donc, par définition, il nous faut, non seulement elle est essentielle pour le maintien de la vie, mais peut-être extrêmement bénéfique par rapport aux besoins des populations humaines demain.
Et vous, au sein de la COC, Florent, le sujet, il se limite, entre guillemets, même si c'est pas, c'est tout sauf une limite, mais c'est la question de l'eau et la ressource en eau, la gestion de l'eau, ou ça va au-delà?
C'est l'ensemble
en termes de gestion des ressources.
C'est l'ensemble du cycle de l'eau et des ressources. En fait, quand on est à la CEC, on ne parle pas que d'un sujet, on parle d'un sujet dans sa complexité, dans sa globalité, dans son écosystémie finalement, parce que tout est lié. On ne peut pas juste traiter l'océan, ou traiter le climat, ou traiter la forêt, sans considérer tous les autres facteurs, toutes les autres limites de la planète. Et c'est vrai que ce qu'on apporte, c'est beaucoup de circularité dans les questionnements. Aujourd'hui, on se pose la question d'une ressource de l'océan par rapport, exemple, laboratoire Gilbert. Mais il y a peut-être une ressource qui n'est pas aujourd'hui identifiée, qui pourrait leur être utile demain, ou être utile à la santé. Et si on laisse faire les choses, on peut détruire cette ressource en moi-même de s'en servir. Donc c'est vrai que la complexité dont parle Cédric, elle est à tous les niveaux.
Est-ce que ce que j'ajouterais, ce qu'apporte beaucoup la CEC aux dirigeants, c'est d'être bien plus conscient de notre interdépendance. On a un peu trop tendance à réfléchir en silo par rapport à nos problématiques qui sont propres, par rapport à nos fournisseurs, notre business, nos marchés, la gestion des risques et autres. Mais en fait, le problème climatique et la situation actuelle nous amène à réfléchir de manière beaucoup plus large, beaucoup plus vaste et vraiment de conscience de, pour la pérennité de notre modèle, pour la pérennité de notre entreprise, d'être réellement conscient de cette interdépendance et de quelle manière le modèle qui a régi un petit peu notre fonctionnement depuis des années, il est amené à s'éteindre, à laisser la place à un autre modèle. Et c'est tout ce cheminement en fait qu'apporte la CEC, qui est nécessaire en tant que dirigeant d'entreprise pour réfléchir. Il n'y a pas de solution toute faite, mais réfléchir à un nouveau modèle d'affaires.
Est-ce que, alors c'est bien sûr tout le sujet, est-ce que vous sentez des conflits, des tensions autour de l'eau? Parce qu'on le sait, la ressource en eau se raréfie. Tout le monde va avoir besoin d'eau, mais il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que ça fait partie des problématiques sur lesquelles vous vous projetez?
Les problématiques, elles sont déjà très, très prégnantes. Des confrères et concurrents se sont vus imposer par le préfet l'arrêt de l'alimentation en eau pour leur usine. Parce que la gouvernance de l'eau avait plutôt affecté cette ressource qui s'est raréfiée vers les agriculteurs. Ce qui veut dire un chômage technique et un arrêt d'activité pur et simple.
Et pas ça, vous, ça arrêt des concurrents, mais pas...
C'est ce qu'on vérifie, c'est ce qu'on voit déjà en France. C'est quelque chose que je ne veux pas subir, mais qu'en l'occurrence, je souhaite appréhender et mieux réfléchir à mon empreinte eau et réfléchir plus consciemment avec l'écosystème local.
Et c'est vrai qu'on invite les dirigeants à se projeter en fait en se disant, et si demain la ressource en eau devenait très rare ou très polluée, ou si on avait du mal à la partager, qu'est-ce qui se passerait?
Est-ce qu'il y en a qui disent au sein de la COC, moi je suis prioritaire, pardon, je fais l'électricité, je passe avant où? Vous voyez, est-ce que c'est le genre de discussion légitimement pourrait intervenir? Non.
Enfin, aujourd'hui, la question se pose en comment on s'organiserait, comment on s'organise déjà aujourd'hui pour imaginer des plans aléatoires comme celui-là? Parce qu'ils vont probablement arriver, c'est déjà le cas. Donc oui, on les invite à se projeter.
Quoi, l'évolution du modèle d'affaires, ça, on joint plutôt des problématiques liées à la gouvernance de l'eau. Si l'eau serait raréfiée, à qui je la donne, à qui je la distribue. La question est plutôt de réfléchir réellement à son empreinte eau. Comment je la consomme mieux? Comment je la valorise? Comment je réfléchis à mon empreinte?
Et alors justement, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place comme bascule du modèle d'affaires?
Ce qu'on a commencé à mettre en place, typiquement, outre la valorisation de l'eau en tant qu'ingrédient par rapport à la sphère respiratoire, la décongestion nasale, ce genre de choses, ou les catégories pédiatriques, où là, c'est ma spécialité en tant qu'acteur pharmaceutique. Au niveau des opérations industrielles, c'est typiquement le recyclage des eaux de lavage. Plutôt que de remettre de l'eau au réseau, comment je réutilise cette eau, je conçois avec l'ingénierie des boucles d'eau qui soient plus vertueuses, de manière à être plus responsable sur mon empreinte eau et moins de gaspillage, tout simplement.
Et vous, parce que donc encore une fois, vous accompagnez des dizaines d'entreprises dans vos parcours, qu'est-ce que vous voyez poindre comme nouveau modèle d'affaires autour de l'eau?
Ce qu'on voit poindre, c'est ce qu'on voit poindre dans chaque parcours de la CEC, c'est des coopérations dans des entreprises qui finalement n'étaient pas tellement en lien que ça, qu'elles soient amont, aval de la chaîne de valeur, ils se rendent compte que finalement les solutions qu'on a dans nos écosystèmes, un peu en mode silo, vont pas toujours être les bonnes solutions dans des nouveaux cas en fonction de la situation, du contexte. Et donc va aller chercher des solutions ou des regards des croisés d'autres dirigeants, d'autres secteurs, c'est une force que...
Vous avez un exemple en tête de coopération justement qui sort un peu des sentiers battus?
Alors, un exemple très récent, on est allé visiter une entreprise de pêche qui fait partie de nos participants à Boulogne-sur-Mer lors de la précédente session. Et on avait parmi les personnes qui faisaient la visite, c'était Sophie Pêche, et parmi les personnes qui faisaient la visite, une petite entreprise, pardon, je dis petite, mais enfin une start-up, Inoaya, qui fait des solutions, qui apporte des solutions de traitement de l'eau. Et tout de suite, voilà, des solutions ont émergé entre ces deux entreprises. Mais forcément que le mettre ensemble des dirigeants qui ont des écosystèmes variés, ensemble, vont trouver des solutions là où ils n'en trouvent pas dans leurs écosystèmes, un peu en filière.
C'est Eric Bâtard,
les enjeux sont, pour vous. Ouais, les enjeux sont tellement essentiels et imminents qu'il faut effectivement sortir du silo, il faut prendre de la hauteur et réfléchir ensemble sur le plan d'un territoire ou sur le plan d'une filière, de manière à adresser ces enjeux plutôt collectivement. Et pour moi, la solution est dans cet axe-là, et c'est en ce sens aussi où j'ai rejoint la CEC qui abonde complètement et puis fournit un peu une méthodologie, un réseau qui permet effectivement de trouver des solutions.
Bon, et
qui sont propres à chacun par rapport à notre organisation. Quoi. Ce ne sont pas les politiques qui vont le définir concernant mon modèle d'affaires.
Non, bien sûr. Le message est très clair. Merci, merci de prendre vos responsabilités. Merci à tous les deux d'avoir été là pour vos conseils et partage d'expérience. Cédric Bâtard du groupe Gilbert et Florent Favier de la Convention des entreprises pour le climat. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de BFM Climat. Je vous l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine à Nice pour une émission spéciale depuis l'UNOC. On vous fera vivre l'événement sur place. Et d'ici là, on garde contact comme toujours sur notre appli BFM Business en podcast, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, bref, de partout. Allez, très bonne journée, à très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.